Écoutons la parole de notre Seigneur. Pour ce jour, dans la première épître de Pierre apôtre, au chapitre 2, les versets 19 à 25. On va commencer même à 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Nous chanterons au cantique 202, au numéro 202. Les trois strophes. Prions. Dieu notre Père, nous te louons pour la parole toujours nouvelle que tu nous adresses. Mets en nos cœurs ton esprit. Fais que la prédication de ta parole rende présent parmi nous ton Fils, Jésus le Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. Vous avez été appelés parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous avez été appelés parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Le Christ, notre Seigneur nous a laissé donc un exemple. Lui, le bon berger, le seul berger, le pasteur, l'inspecteur ecclésiastique, le président de conseil régional, n'est pas le berger. Jésus, lui, le seul berger dont parle Jean, nous a guidés afin que nous suivions ses traces. C'est ce que nous pourrions appeler, mes amis, une parole simple qui peut ne pas nous émouvoir, au contraire de certaines paroles de l'Évangile qui peuvent nous bousculer, nous troubler. Les paroles de l'Évangile qui paraissent plus fortes, plus intenses, plus percutantes que celles-ci. Vous avez été appelés parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Je crois que cette parole est une parole que l'on peut écouter sans vraiment l'entendre. C'est une parole qui possède une mélodie harmonieuse à nos oreilles, un peu comme les musiques, vous savez, que l'on peut écouter dans les centres commerciaux. On finit par ne plus vraiment y faire attention. Et puis, c'est aussi un peu ce qui peut se passer pour nos fêtes religieuses. Noël, l'Épiphanie, Pâques, l'Ascension, Pentecôte. Elles rythment bien sûr nos existences, mais sans vraiment, vraiment les transformer. On peut même se dire chrétien, par habitude, ou même parfois pour se reposer. C'est simple. Je suis chrétien. Il n'y a pas à réfléchir. Oui, je suis chrétien. Le Christ est mon berger. Il me guide. J'ai confiance en lui. Je suis bien, très bien, dans le troupeau, avec les autres, au milieu des autres. Mais, amis, est-ce bien cela ce que le Seigneur a voulu ? Alors, si je pose la question, c'est que, bien sûr, cela n'est pas aussi évident que nous pourrions le penser. Et peut-être ai-je tort de vouloir remettre en question ma façon de vivre, la façon de vivre de mon Église, la façon de vivre de la chrétienté, tout simplement. Alors, je le crois, il me paraît important, nécessaire, utile, parfois de me secouer, de ne pas seulement recevoir la parole de Dieu comme ça, mais de prendre conscience de ce qu'elle va impliquer dans mon existence personnelle, intense, au plus profond de moi-même. Et voici, je crois que notre Seigneur lui-même nous réveille comme il vient de le faire. Vous avez été appelés afin que vous suiviez les traces du Christ. Vous avez été appelés afin que vous suiviez les traces du Christ. Suivre les traces du berger, c'est marcher là où il marche. S'arrêter quand il s'arrête. Suivre les routes qu'il décide de prendre. Là déjà peut s'installer le trouble dans nos esprits. En effet, il est possible que nous ne voulions pas marcher quand il marche, nous arrêter quand il s'arrête, et surtout, prendre certaines routes qu'il prend. Suivre ses traces, c'est aussi agir comme lui-même a agi. Ne dit-il pas que celui qui croit en lui accomplira les œuvres qu'il fait lui-même ? C'est aussi parler comme lui-même a parlé. Suivre ses traces, mes amis, ne serait-ce pas également annoncer l'Évangile comme lui-même l'a fait, contre vents et marées, et parfois au risque de sa propre sécurité. L'Évangile. Il est peut-être temps de nous rappeler ce qu'est cet Évangile, cette bonne nouvelle que Jésus, le Fils de Dieu, a proclamée aux hommes et aux femmes de son temps. L'Évangile. L'Évangile est la promesse du salut offert par Dieu à tous les êtres humains. Ce salut est signifié par la mort du Christ pour tous les hommes, afin de les libérer du péché et de la mort. Et le Christ ? Le Christ, faut-il le rappeler, n'est pas mort pour ceux qui étaient bons et justes. Il est mort pour tous les pécheurs. Et comme le dit l'apôtre Paul, il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Le Christ n'a pas attendu que nous soyons parfaits, justes, que nous ayons accompli de bonnes œuvres pour pouvoir mourir à notre place et pour nous conduire à une vie nouvelle. Et voici que nous sommes appelé à reconnaître quelque chose qui peut nous troubler. Christ est mort pour tous. Nous, les méchants. Il est mort pour le blanc. Il est mort pour le noir. Il est mort pour le jaune. Il est mort pour le rouge. Il n'est pas mort pour une race particulière. Et quand on se dit chrétien, il me paraît impossible d'être raciste et xénophobe. Il n'est pas mort non plus pour un peuple particulier, comme le nôtre par exemple. Il est mort pour tous sur la croix, pour nous tous sur la croix. Il est donc mort aussi, terrible nouvelle, pour les dictateurs de tous les pays et de toutes les époques. Quand nous prenons conscience de cela, nous pouvons être portés dans la colère. Et je repense tout particulièrement à ma maman, juive qui avait porté l'étoile jaune de David et qui me suivait dans mon cheminement, dans la foi. Et un jour, je lui disais que oui, Jésus était mort aussi pour Hitler et pour elle. Voilà une parole qui était terrible. Terrible. Comment ce barbare, comment cette bête immonde pouvait-il être accueilli aussi dans les bras ouverts du Christ ? Mais le Christ est mort pour tous, y compris pour lui, y compris pour tous ses dictateurs. Oui, voilà une parole bien insoutenable et une parole que nous avons beaucoup de difficultés à accepter. Et si ce n'était qu'une parole ? Mais il s'agit aussi d'un acte. Le Christ, en écartant ses bras sur la croix, a aussi accueilli, comme je le disais, tous les dictateurs de ce monde. C'est injuste, injuste à nos yeux. Mais que pouvons-nous y faire, mes amis ? Pourrions-nous interdire à Dieu d'offrir son Fils pour tous les hommes ? Pourrions-nous interdire au Christ de mourir pour certains ? Si nous faisions cela, alors le sacrifice du Christ serait inutile pour l'humanité et il ne serait pas le salut du monde, de notre monde. Dieu nous conduit à voir par-delà les apparences. Notre foi doit éveiller nos consciences afin de remettre en question nos propres jugements, nos propres condamnations à l'égard de tel ou tel. Notre foi nous apprend que l'Évangile est l'amour de Dieu annoncé à tous les hommes et à toutes les femmes, et pas pour seulement quelques-uns. L'Évangile, c'est proclamer le pardon, même quand celui-ci paraît difficile à donner. C'est apporter, affirmer et construire la paix, alors que tout le monde dit la guerre. L'Évangile, c'est faire jaillir la vérité au milieu du mensonge, de la désinformation et de la manipulation des peuples. L'Évangile, c'est vivre la joie quand le monde pleure. C'est dire, attention, attention, ce n'est pas gagné quand tout le monde affirme le contraire. L'Évangile n'est pas la sagesse humaine, il n'est pas non plus règlement de la vie en société, il est libération, amour et paix. C'est ce que nous dirons, entre autres, pendant l'Assemblée générale de la Fédération luthérienne mondiale à Windhoek, capitale de la Namibie, du 10 au 16 mai, où notre Église, l'Église protestante unie de France, membre de la Fédération luthérienne mondiale, comme elle est membre aussi de la Communion mondiale des Églises réformées, notre Église sera donc représentée à Windhoek pour cette Assemblée générale de la Fédération luthérienne mondiale. Et elle sera représentée par le pasteur Claire Sixte Gatteuil, secrétaire national aux affaires internationales de notre Église, et puis par moi-même. Nous allons aborder le thème « Libéré par la grâce ». Et « Libéré par la grâce » qui sera défini par trois sous-thèmes. Le salut n'est pas à vendre, les êtres humains ne sont pas à vendre, La création n'est pas à vendre. Je vous invite, mes amis, à porter cette Assemblée générale de la Fédération Étienne Mondiale dans la prière, aujourd'hui, et tout particulièrement le dimanche 14 mai, dimanche prochain, car tous les délégués de cette Assemblée, c'est à peu près 300 délégués représentant le monde entier, les 145 églises membres de la Fédération Étienne Mondiale, et les 500 invités, et plus le peuple de Namibie qui sera présent, nous allons fêter le 14 mai la célébration des 500 ans de la réforme. L'intérêt, la force, en tout cas, que nous voulons vivre aussi pendant cette Assemblée générale, c'est de dire que l'Évangile, la grâce que le Seigneur nous fait, a des implications dans ce monde, pour ce monde, et qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi. Libérés par la grâce et suivre les traces du Christ. Parfois, nous pouvons avoir tendance à croire que l'Évangile serait conforme à notre pensée, à nos désirs et à nos affirmations. Alors que le Christ lui-même remet en cause l'idée que les hommes se font de Dieu. Le Christ lui-même remet en cause la nature de l'ordre établi. Lui, le chef, se fait le serviteur de tous. Il lave les pieds de ses disciples. Lui, le Dieu vivant, se fait clouer sur le bois de l'infamie. Et c'est ainsi, amis, qu'il nous remet aussi en cause nous-mêmes. Ne restons pas figés dans nos pensées, dans nos traditions, dans nos habitudes, dans nos raisonnements, dans ce qui semblerait être nos vérités. Mais sachons nous laisser transformer par le Christ lui-même. Sachons nous laisser bousculer par sa parole, par l'Évangile qu'il nous a adressé. L'apôtre Pierre nous rappelle que suivre les traces du Christ comporte certains risques. Il le rappelle à chaque baptisé. Il y a vous, Charles, tout particulièrement. À la communauté, à l'Église, qui est le corps du Christ au cœur du monde. Si nous suivons vraiment les traces du Christ, c'est au Golgotha, mes amis, que nous parviendrions. Nous ne pouvons pas faire comme si cela n'existait pas. Une Église qui chercherait à atteindre la gloire sans accepter la croix du Golgotha ne suivrait pas les traces de son Seigneur. Elle succomberait à la tentation que le Christ lui-même a subie, sans y tomber, de gouverner les peuples et les nations. Et le Christ, je le crois, je l'affirme, souffre de cela. Nous n'avons pas assez entendu Jésus nous parler sur la route d'Emmaüs. Il a pourtant rappelé aux disciples qu'il fallait que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire. Nous devons donc prendre conscience des implications dans nos existences personnelles, communautaires, si nous suivons le Christ. Être prêt à poser un acte, à oser une parole dans ce monde et pour ce monde. Nous devons avoir le courage, je le crois, de risquer nos réputations, nos conforts, nos habitudes, nos principes, nos certitudes. Alors je vous l'accorde, c'est vrai, cela n'est pas facile. Cela peut même parfois être très difficile de se remettre en cause. Mais il n'y a qu'à voir aussi les exemples que le Seigneur nous donne. Alors je vais citer comme ça quelques personnes, quelques figures emblématiques. Victor Jara, un poète, exécuté par le général dictateur et chrétien, Pinochet. Dietrich Bonhoeffer, exécuté pour avoir voulu détruire la bête immonde. Camilo Torres, prêtre, exécuté par le général dictateur et chrétien Videla. Steve Biko, en Afrique du Sud, qui malencontreusement est mort en tombant de sa chaise dans un commissariat de police, tout simplement parce qu'il réclamait la liberté au nom de Jésus-Christ à ses frères et à ses sœurs noirs, et tant d'autres encore. Suivre les pas et les traces du Seigneur, accomplir les œuvres qu'il fait, c'est une fois passé les ténèbres de la haine et du mépris, parvenir aussi à la résurrection. Ce que justement l'apôtre Pierre appelle la gloire. Ressusciter signifie alors vivre nouveau, être libéré de tout ce qui pouvait nous emprisonner. Ressusciter signifie combattre et lutter contre toutes les volontés de ceux qui voudraient construire des murs entre les êtres humains, entre les peuples. Parvenir à la résurrection, ce serait alors parvenir à porter nos regards au-delà de ce que nous voyons. Parvenir à remettre en question même ce qui nous paraît immuable. Ressusciter avec le Christ, c'est parvenir à la vraie liberté des enfants de Dieu que rien ne peut emprisonner. Liberté vécue pleinement et totalement dans l'amour. Ressusciter avec le Christ, c'est vivre cet amour pour l'autre et pour soi, où il nous est donné d'apprendre à recevoir autant que de donner. Et suivre les traces du Christ, c'est partir à l'aventure, sans savoir où cela pourra nous conduire, mais partir avec confiance, parce que notre berger, lui, c'est ce dont nous avons besoin. Et qu'il partage avec nous ce qu'il reçoit pleinement et totalement de son Père. C'est partir comme Abraham est parti, sans savoir où il allait, mais certain que son Seigneur le conduirait dans sa lumière et dans sa paix. Quelques semaines après Pâques, Dieu nous redresse, mes amis. Il nous remet debout. Il nous ressuscite. Et il prend la tête de notre communauté. Il se met en marche. En marche. Bon. N'y voyez aucun appel. J'y peux rien, c'est dans la Bible. Hein. Il se met en marche. Et nous invite à le suivre. Soyons confiants. Suivons-le. Redressons-nous pour annoncer l'Évangile, accomplir les œuvres qu'il fait et proclamer l'unité et la fraternité de tous les êtres humains, parce que tous sont enfants d'un même Père. Vous avez été appelés par le Christ, afin que vous suiviez ses traces. Amen.